Chapitre 1. Tu es prête, mon poussin? Depuis près d'une demi-heure, face au miroir de la salle de bain, j'essaie de discipliner mes longs cheveux roux et bouclés pour qu'ils tiennent dans un chignon. Sans grand succès. Comme lorsque j'étais petit rat de l'Opéra de Paris et que j'endurais chaque matin cette torture de la brosse qui tire les cheveux et des épingles enfoncées pour maintenir l'ensemble en un chignon impeccable. Que pas une mèche ne dépasse. Je me retourne d'un geste brusque pour le fusiller du regard. Est-ce que j'ai l'air d'être prête? Et puis on va pas à un bal, on s'en fout que je sois prête ou non. On enterre Marie aujourd'hui, alors tu vois ta question est juste stupide. Je serai jamais prête pour ça, et puis franchement arrête avec tes mon poussin, on n'est pas veto. Pardon Molly, je ne voulais pas dire ça. Germain me fait face, et je devine que je l'ai blessé. Il est sans doute le garçon le plus gentil que je connaisse, toujours prévenant et plein d'attention. Toujours à me laisser choisir, à accepter de faire ce dont j'ai envie. Et même en cet instant, alors que je viens de lui lancer une remarque injuste et méchante, il trouve encore le moyen de s'excuser. Ce qui devrait me toucher et m'attendrir, pour une raison qui m'échappe décuple ma colère. Cela fait quasiment 6 mois que Germain et moi sommes ensemble, presque autant que j'ai emménagé dans le petit appartement que lui ont légué ses grands-parents dans le 8e arrondissement de Paris. La question de vivre sous le même toit ne s'est pas vraiment posée, mais imposée. J'avais dû retourner vivre chez mes parents, après qu'Hugo m'avait quitté, et bien que je les adore, la cohabitation ne pouvait s'éterniser, pour eux comme pour moi. 15 jours à peine après ma rupture, la mère de Marie, responsable d'un service administratif et financier, m'avait présenté Germain, son nouveau stagiaire. Marie avait dû passer la voir à son bureau pour lui rendre un livre et nous nous étions donné rendez-vous là-bas avant d'aller faire du shopping. Lorsque je l'avais croisé près de la machine à café, Germain s'était fendu d'un petit sourire timide, creusant des fossettes sur ses joues. Je l'avais trouvé mignon avec ses grands yeux bleus. 2 jours après cette rencontre, il m'envoyait un message me proposant d'aller prendre un verre. Il avait convaincu la mère de Marie de lui donner mon numéro de téléphone. J'avais accepté. Petit à petit, j'avais amené mes affaires chez lui pour définitivement quitter ma chambre de petite fille dans le pavillon de la Garenne Colombe où j'avais grandi. « Si tu as besoin de moi, je t'attends à côté. » Oui, Germain est un vrai gentil. Il referme doucement la porte de la salle de bain derrière lui et je reprends ma position face au miroir. Comme si je pouvais être prête. Et si je n'y allais pas? Elle ne m'en voudrait pas. De toute façon, elle ne sera pas là pour le voir. Les larmes que je refoule depuis que je suis réveillée se mettent à couler, validant l'option sans maquillage pour laquelle j'ai opté. Le vide que je ressens au fond de l'estomac prend d'un coup toute la place. Les sanglots se font plus violents. Je peine à trouver mon souffle. D'un geste rageur, je balaye tout ce qui se trouve sur la tablette devant moi, ignorant le fracas des bouteilles de parfum et vernis à ongles qui se brisent sur le sol. La porte de la salle de bain s'ouvre sans bruit, et je sens la main de Germain caresser maladroitement mes cheveux défaits. « Ça va aller, mon poussin. Ça va aller. » L'église est déjà pleine de monde lorsque nous entrons. J'ai renoncé au chignon, et Germain me tient la main de peur sans doute que je m'effondre en plein milieu de l'allée. De nombreux visages me sont inconnus, et c'est tant mieux, parce qu'apercevoir ceux que je connais suffit à faire de nouveau couler mes larmes. Charlotte, la mère de Marie, est assise au premier rang, les épaules voûtées. Elle, qui a vu mourir son mari il y a 5 ans, doit cette fois-ci enterrer sa fille. Son visage est d'une pâleur extrême, accentuée par la finesse de ses traits. Elle a pris 10 ans en quelques jours. À côté d'elle se tient Sacha, 24 ans, le frère de Marie. Le dos raide, la bouche crispée, il soutient sa mère qui s'appuie désespérément contre lui. Il est désormais tout ce qu'il lui reste. J'évite de croiser leurs regards. Je sais que je ne supporterai pas d'y lire toute la douleur qu'il y a aussi sans aucun doute dans les miens. J'essaie de ne pas regarder le cercueil qui surplombe l'assemblée. De ne pas penser à ce qu'il contient. Je m'assois sur un banc derrière la famille de Marie et m'efforce de calmer le tremblement de mes jambes. Je ferme les yeux et tente de m'évader loin de cet endroit. L'image de Marie aussitôt envahit ma pensée. Petite brune coiffée à la garçonne, toujours prête à rire, tellement pleine de vie. « Comment vas-tu, ma chérie ?» La voix de ma mère me sort de ma torpeur. Mon père et elle ont pris place derrière nous. L'amitié qui lie mes parents à ceux de Marie est tout aussi ancienne que la nôtre et presque aussi forte. Pour notre plus grand plaisir, nous passions souvent nos samedis soirs l'une chez l'autre, pendant que nos parents débattaient frénétiquement des sujets d'actualité, que ma mère tentait de faire valoir sa vision américaine des choses, Marie et moi nous jouions toutes les deux, souvent rejointes par Sacha, ce qui nous agaçait prodigieusement. Je sais combien le décès d'Henri, le père de Marie, a profondément affecté mes parents il y a 5 ans. Ils soutiennent Charlotte autant qu'ils le peuvent depuis. Combien de temps dure la cérémonie, je n'en ai aucune idée. Je me lève et me rassois au rythme de ce qui nous est dicté. Je triture dans ma main droite un mouchoir réduit à l'état d'une petite boulette qui ne peut plus rien essuyer. Les discours et hommages s'enchaînent. Tous ceux qui parlent de Marie ne la connaissaient pas comme moi je la connaissais, mais il était au-dessus de mes forces de prendre la parole. Quand arrive le moment de bénir le cercueil et d'adresser un dernier adieu à ma meilleure amie, mes jambes refusent de me porter. Je vois tous ces gens se mettre en ligne et avancer pas à pas. Je pense à ce qu'elle était, à ce qu'elle représentait pour moi. Mon corps rejette en bloc ce qui est en train de se dérouler sous mes yeux. Elle m'a demandé de vivre pour elle. Et là, dans cette église, je ne vis pas. Elle ne vit pas. Là, dans cette église, soudain, c'est trop dur. Je me sens comme oppressée. Je peine à trouver de l'air pour respirer. Il faut que je sorte. Je ne peux pas rester là où il n'y a que la mort et le chagrin, que le désespoir et les adieux que l'on ne devrait jamais avoir à faire. Je regarde tout autour de moi, des visages fermés, des yeux mouillés que l'on tamponne avec un coin de mouchoir, mes parents qui soutiennent Charlotte en larmes devant le cercueil. C'est plus que je ne peux supporter. Mes jambes qui refusaient de répondre quelques minutes plus tôt, d'un coup me soulèvent. J'avance de quelques pas dans l'allée, fais demi-tour, et me mets à courir vers la sortie pour quitter cet endroit au plus vite. J'entends à peine Germain bredouiller quelques mots dans mon dos. Je crois comprendre qu'il me demande où je vais, peu importe, tant que c'est loin d'ici. Je pousse les lourdes portes de l'église et me retrouve sur le parvis, fouetté par le vent de cette froide journée d'octobre. Je descends la volée de marche et avance droit devant moi. « Tu ne devrais pas rester seule. » Viviane vient de sortir de sa voiture. Elle est après Marie la plus proche de mes amies. Toutes les deux ne s'appréciaient pas beaucoup. Viviane, sensée, organisée et réfléchie. Marie, délurée, sans aucun plan de carrière, imprévisible. Je regarde Viviane s'avancer vers moi, et la réalité de ce que je viens de vivre s'impose à moi. Elle est partie vive. Je sais, Molly. Je sais. D'un geste un peu gauche de celle qui n'a pas l'habitude, elle me prend dans ses bras. Pendant de longues secondes, je pleure en silence. Viviane ne dit pas un mot. Une bourrasque de vent plaque mon manteau contre mes jambes. Une bande d'adolescentes passe devant nous. J'entends leur rire résonner et peu à peu s'éloigner. Puis le vent se calme. Un timide rayon de soleil fait même son apparition. Viviane desserre son étreinte. Les yeux enfin secs, je m'écarte. Je tente de démêler avec les doigts mes cheveux rendus fous par les éléments. De l'autre côté de la rue, un type glisse sur je ne sais trop quoi et se rattrape in extremis, non sans avoir mouliné des bras pour garder l'équilibre. Je sens un fou rire qui monte du fond de mon estomac. J'essaie de le contenir, mais il est si impérieux que je le laisse m'envahir et ris jusqu'à en avoir mal aux côtes. Viviane me dévisage et son expression ne fait que renforcer mon hilarité. « Je vais vivre, Marie. Je vais vivre, je te le promets. »